Nous serons ce matin dans le livre de Jacques. Je vous invite à trouver ce passage. Le livre de Jacques, et ce sera le chapitre 3 qui nous intéressera. Jacques, chapitre 3. Et quand vous entendez Jacques chapitre 3, ben, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Enfin, je sais ce qui me vient à l'esprit, et je pense pour beaucoup, si vous connaissez ce chapitre, ben, tout de suite, ben, la chose qui vient, c'est la langue. Parce que Jacques ici, au milieu de ce livre, où il parle quand même de pas mal de choses, de la foi, des œuvres, il parle même des disputes, il parle de l'amour de ce monde, il parle d'un ensemble de choses, et au milieu de cela, il prend ce chapitre 3 pour donner cet enseignement sur la langue. Mais en réalité, cet enseignement va même au-delà de la langue. Parce que, comme on va le voir, cet enseignement sur la langue, manifeste qu'il y a encore quelque chose derrière. Parce que la langue n'agit pas seule. Même ce membre physique qui est là, n'agit pas tout seul. Il y a quelque chose derrière et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, suivez avec moi, en fait, nous allons lire tout ce chapitre, il n'est pas très long, et même s'il est bien familier, il est toujours bien de revenir sur ces passages, donc permettez-moi de lire ces versets, suivez avec moi Jacques chapitre 3, en commençant avec le verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces quelques instants que tu guides notre pensée, que notre cœur soit réceptif à ce que tu as pour nous. Nous savons que tu veux nous enseigner, ta parole est puissante et elle est capable de nous transformer, que nous te laissions agir, Seigneur, et que ce soit pour ta seule gloire. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, Jacques, ici, dans cette lettre qu'il écrit, en fait, c'est une des premières lettres qui a été écrite parmi ces livres que nous avons dans le Nouveau Testament. Jacques a été écrit, il paraît, assez tôt. Et Jacques savait que les chrétiens de son époque avaient un ensemble de problèmes. Et pratiquement 2000 ans plus tard, n'est-il pas vrai que, en tant que chrétiens, parfois nous rencontrons des problèmes. Et face à ces problèmes, il peut avoir un esprit qui commence à s'installer où on se dit c'est plus la peine. On essaye, mais rien ne marche. Et lorsque nous retrouvons ce verset, peut-être parfois nous pouvons avoir un petit sentiment de désespoir en disant « je lutte tellement, j'essaie, mais il n'y a pas de changement dans ma vie ». Là, j'ai tout essayé, mais ça ne semble pas marcher. Et au verset 2, non pas pour appuyer cela, mais Jacques relève quelque chose. Regardez, verset 2. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait et capable de tenir tout son corps en bride. » Et on se dit, mais c'est vrai, parfois on a des paroles maladroites. Parfois, on dit des choses qu'il ne faut pas. Parfois, c'est inconsciemment, on dit quelque chose et on se rend même pas compte. Parfois, c'est de manière intentionnée. Et par la suite, on réfléchit, on se dit, « Ah, je n'aurais pas dû. Ah, là, je dois demander pardon. » Et on se dit, « Mais malgré mes efforts, je veux faire mieux, mais je vois pas d'avancement. » Et là, on voit, pour tenir sa langue, pour ne plus dire quoi que ce soit de travers, quoi que ce soit qui blesse, quoi que ce soit qui ne glorifie pas Dieu, il faudrait être parfait. Et moi, simple homme, simple femme, je ne le suis pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, lorsque nous descendons, verset 7, Jacques explique que les animaux, tous les animaux jusqu'à présent, on a réussi à les dompter. À les maîtriser, à les faire ce qu'on veut. Il prend ces exemples qui sont là, et même quand on pense au cheval, cette bête quand même assez énorme, et on ne lui fait pas tout ce qu'on veut, à moins d'avoir l'équipement nécessaire. Et Jacques dit, on a pu faire cela avec tous les animaux, aussi féroces, aussi parfois bêtes, aussi têtus parfois qu'ils sont. Tous les animaux, on a réussi à les maîtriser, à les dompter. Et là, verset 8, Jacques dit, mais la langue, quelque chose même qui est intérieur à nous, quelque chose qui nous est propre, la langue, aucun homme ne peut la dompter. Oula, est-ce que vous entendez la note un peu de désespoir? Aucun homme ne peut la dompter. Et ici, Jacques dit, d'un côté, être humain, homme, il ne faut pas se limiter aux gens masculins. Les femmes sont impliquées, donc tous, et les hommes vont dire oui, les femmes, même plus que les hommes, mais bon, on ne parlera pas de cela ce matin. Mais les hommes et les femmes, Jacques dit, il est impossible à l'homme ou à la femme, par elle-même ou par lui-même, de contrôler, de maîtriser la langue. Il dit, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin. Et là, Jacques pèse ces mots, venin mortel. C'est un tableau un peu noir que Jacques dépeint ici. Et comme j'ai dit, est-ce que vous entendez un peu, presque la note de désespoir? Alors rassurez-vous, je vous le dis d'avance et vous le savez, tout n'est pas noir, tout n'est pas perdu. Mais il faut quand même reconnaître, pas simplement pour les autres, parce qu'on peut tous penser à des incidents où quelqu'un d'autre a mal parlé, s'est mal servi de sa langue, quand quelqu'un d'autre nous a peut-être blessé, a dit quelque chose qui n'était pas vraiment ce qu'il fallait, aurait pu se prendre différemment. On peut tous penser à un moment où quelqu'un d'autre nous a fait cela. N'est-ce pas? Mais aussi, il faut reconnaître que chacun de nous peut penser à un moment où nous l'avons fait à quelqu'un d'autre. Et ici, Jacques dit, la langue, Aucun homme ne peut la dompter. Nous avons tous un problème avec notre langue. Tous, sans exception. Et même si on peut dire, oui, mais je n'ai pas autant de problèmes que un tel ou une telle. Oh, si je devais vous raconter ce que cette personne a dit. Oui, mais moi, ma langue, comment est-elle? Et Jacques dit, oui, elle est incontrôlable. Ce membre qui est là ne peut pas être contrôlé, ne peut pas être maîtrisé par l'homme. Et il dit, verset 9, les conséquences de cela est une incohérence totale. Il dit, par elle, c'est-à-dire cette langue totalement incontrôlable, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Voici le résultat lorsque nous essayons par nos propres forces de contrôler ce membre qui est incontrôlable. Parfois nous réussissons, parfois nous bénissons Dieu. Nous disons « Dieu est grand », nous disons « Combien nous l'aimons ». Et de l'autre côté, ben, nous faisons du mal à d'autres chrétiens, nous faisons du mal à des personnes même inconverties, nous salissons peut-être notre témoignage. Et ici, Jacques dit « Il y a une incohérence totale ». Lorsque l'homme, l'être humain, par lui-même, essaie de contrôler ce membre qui est totalement incontrôlable. Et dans les versets 10 à 12, il prend ces images de la nature, les fruits, les arbres. Bah, quand vous voyez un arbre et il y a un certain fruit dessus, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, c'est un arbre particulier. Si vous voyez un arbre et il y a des noix dessus, vous n'allez pas dire que c'est un pommier. Vous n'allez pas dire que c'est une vigne. Non, vous allez dire que c'est un noyer. Et ainsi de suite, Jacques dit, ben, quand il y a tel ou tel fruit, ben, ça montre que c'est tel ou tel arbre. On ne peut pas les dissocier. Un certain arbre va produire obligatoirement un certain fruit. Et il dit, une source ne fait pas jaillir, ne produit pas deux sortes d'eau différentes. Soit la source, elle est bonne et elle produit une eau douce, utile, agréable, soit la source, elle est mauvaise. Et ce qu'elle produit, cette eau, elle est salée, elle n'est pas utile, elle est amère, elle est même peut-être dangereuse. Et Jacques dépeint ici ce que en réalité nous sommes. Et notre première responsabilité, c'est de reconnaître que nous sommes dans cet état. De reconnaître la réalité. Nous voudrions que ce soit autrement. Nous voudrions que les gens nous regardent bien. Nous voudrions que les gens pensent et se disent que tout va bien, qu'on n'a aucun souci, mais reconnaissons-le tous, nous avons un problème. Même en tant que chrétiens, parce que souvenons-nous, Jacques ici écrit à des chrétiens, verset 1 de ce texte, dit « mes frères dans la foi », et inclut là-dedans, c'est tous les chrétiens auxquels Jacques écrivait. Et cela inclut nous, aujourd'hui, 21e siècle. Il dit, mais mes frères, ceci ne devrait pas être le cas. Et pourtant, ça l'est. Les chrétiens du 1er siècle auxquels Jacques écrivait avaient un problème avec la langue, entre autres choses. Et aujourd'hui, nous, chrétiens du 21e siècle, tous, et je m'inclus là-dedans, nous avons un problème avec la langue. Alors que faire? Parce que, Jacques dit, l'homme est totalement incapable de la maîtriser. L'homme est totalement incapable de faire quoi que ce soit pour que cela aille mieux. Et lorsqu'il essaye, bah, parfois il réussit. Et parfois, il rate. Parfois il y a des choses qui sortent et qui ne devraient pas. Même en tant que chrétien, cela arrive. Et nous le savons parce que, bah, on a pu le constater dans notre propre vie. Et Jacques, heureusement, inspiré par Dieu, ne nous laisse pas dans le suspense, ne nous laisse pas sans réponse, non. Il dit, verset 13, et vous le savez, vous avez déjà lu ces versets, vous les connaissez, mais il est tellement important. de revenir là-dessus. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Alors chacun va lever la main en disant « Oui, c'est moi. Moi, je suis sage. Moi, je suis intelligent. » Qui va se dire stupide et manquant de sagesse? Non. Non, on va dire « Oui, moi, je suis sage. Moi, je suis intelligent. » Et Jacques dit « Bon, d'accord. Ok. Ben, voici ce qu'il faut faire. Voici comment prouver cela. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. » Et le contraste, la différence entre les versets 7 à 12 et les versets 13 jusqu'au verset 18 est tellement frappant. Jacques parle dans ses versets précédents de tout le mal, tout le dégât que peut faire l'homme, que peut faire la langue et que fait la langue. C'est pas simplement hypothétique. Ça se peut, peut-être. Non, il dit, c'est une réalité. La langue fait des dégâts. La langue fait le mal. Et dans les versets 13 jusqu'à 18, Jacques montre tout le contraste. Autant la langue laissée à elle-même et l'homme, avec tous ses efforts propres qu'il fait, fait encore le mal, la langue contrôlée, comme nous allons le voir dans ces versets, peut faire énormément de bien et a des preuves totalement différentes. Alors, verset 13, qui est sage, qui est intelligent? N'importe qui peut dire il est sage, il est intelligent. On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je peux dire que j'ai fait certaines études, mais comment est-ce que je vais le prouver? Une façon, c'est que j'ai un morceau de papier avec écrit dessus, Robert de Sète a fait telle ou telle étude. Ok, très bien. Mais aussi, je vais le prouver en utilisant ce que j'ai appris. Et c'est ce que Jacques dit ici. Si on va dire qu'on est sage et intelligent, et chaque chrétien devrait dire cela, comment est-ce qu'on va le prouver? Comment est-ce que on va pouvoir maîtriser, comment est-ce qu'on va pouvoir montrer que Christ est en nous? Qui le montre par ses œuvres, cette bonne conduite, la douceur de la sagesse. Et j'aimerais souligner ce mot « douceur » parce que vous allez voir cette idée revenir dans ces quelques versets à plusieurs reprises. Alors, sa bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Puis verset 14, il montre le contraste. Et puis, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Et puis, regardez ce qui suit. Et laissez-vous frapper par le contraste entre tout le mal que fait la langue dirigée par l'homme et cette sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Est-ce que vous voyez la différence entre une langue où on essaie tant bien que mal de contrôler, mais parfois ça, on n'y arrive pas. Ce feu qui est allumé, les paroles blessantes qui sont dites, tout ce qu'on fait lorsqu'on essaie de faire par nous-mêmes. Et puis, ce verset 17. Est-ce que vous sentez la paix qui est là? Pacifique, modéré, on va pas aux extrêmes, conciliante, à la fois pour soi-même, mais aussi on essaye d'aider les autres, pleine de miséricorde. J'aime bien comment Jacques ici, il met ses petits mots, ici et là, pleine de miséricorde. Il ne dit pas tout simplement, il y a la miséricorde qui est là, mais pleine. Et n'est-il pas vrai que lorsque les gens nous font du mal, soit en acte, soit en parole, il faut beaucoup de miséricorde pour pardonner, pour oublier, comme Dieu, lui, il le fait. Le mardi soir, depuis quelque temps, nous avons parlé de Dieu, des choses comment Dieu il est, des choses que Jésus n'a jamais dites, et à un moment donné, on avait parlé de son pardon et de sa miséricorde. Et j'ai relevé ce fait que Dieu, il est miséricordieux jusqu'à 1000 générations. Vous vous rendez compte? 1000 générations. Si on admet qu'une génération est 40 ans, ben ça c'est 40 000 années. Et cela fait plus longtemps que la Terre existe. C'est pour dire que la miséricorde de Dieu n'a pas de fin. Et ici, lorsque on est, comme le verset 17 nous le décrit, ben nous sommes pas simplement miséricordieux, mais pleins de miséricorde. Et puis, de bons fruits. Ce qui nous rappelle ce que Paul va dire aux Galates, le fruit de l'esprit. Ben, l'amour, la justice, la paix. Et il dit exemple de duplicité, d'hypocrisie. Et la duplicité et l'hypocrisie, c'est ce que nous voyons dans les versets 7 jusqu'au verset 12. Où d'un côté on bénit, de l'autre côté on maudit. D'un côté on fait le bien, on donne une certaine apparence, et puis de l'autre côté on fait autre chose, on dit autre chose. Voilà le résultat, cette duplicité, cette hypocrisie. Parfois ça réussit, parfois ça ne réussit pas. Voilà le résultat lorsque on essaie de faire par nous-mêmes. Et nous pouvons tomber dans ce piège de croire que la langue, bah, il faut faire attention. Et oui, il faut. Mais il faut se rendre compte que par nous-mêmes, impossible de contrôler la langue. Parce que le vrai problème n'est pas la langue en elle-même. Non, le vrai problème va plus profondément, et c'est ce que Jacques veut enseigner ici aux chrétiens. Il veut leur dire, bah, la langue n'est simplement le résultat de quelque chose d'autre. La langue, elle est dirigée par autre chose. Et c'est au verset 14 où nous avons l'élément clé. Parce que verset 13, Jacques dit, bah, il faut montrer les preuves de cette bonne conduite avec douceur, de la sagesse. Et puis verset 14, mais attention, si vous avez dans votre cœur, et là, pour utiliser l'expression, Jacques va au cœur du problème. Jacques dit, bah, oui, la langue fait ses effets. La langue, c'est ce qu'on entend. Mais la langue en elle-même n'est pas vraiment le problème. Non, le problème, il est plus profond. Le problème, il est au cœur. Et il dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, bien sûr, il ne faut pas se glorifier de cela, et il ne faut pas mentir contre la vérité. Et quand vous lisez cette expression, ne mentez pas contre la vérité, ben, qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est tout simplement, il ne faut pas nier la réalité de la chose. C'est-à-dire, je dois reconnaître que j'ai un problème. Et si je parle mal, si je fais du mal avec ma langue, je dois reconnaître la réalité, la vérité de la chose, c'est parce que j'ai un problème de cœur. Je ne peux pas dire que j'ai un bon cœur spirituellement, alors que je continue de parler mal, de faire du mal avec ma langue. Et si je fais du mal avec ma langue, cela montre, pour moi et pour les autres, que j'ai un problème de cœur. Et ici, Jacques ne fait que appuyer ce que Jésus avait déjà dit dans les évangiles. Jésus a dit, ben, c'est du cœur que la bouche de l'homme parle. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui va le souiller. Non, c'est ce qui en sort, parce que ce qui sort du cœur. Et ici, Jacques dit, si vous avez dans votre cœur, c'est là où il faut travailler. Bien sûr, il faut veiller à ses paroles. Bien sûr, toujours. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais si on se rend compte qu'on dit ce qu'il ne faut pas, qu'on a des paroles qui ne glorifient pas Dieu, qu'on a des paroles qui blessent, qu'on dit des choses qu'on ne devrait pas, il ne s'agit pas tout simplement de dire « Ah, je vais faire mieux, je vais veiller à ce que je dis. » Non, il faut dire « Oula, je dois examiner mon cœur. » Parce que si, tout en disant ces choses qu'il ne faut pas, j'insiste que mon cœur, il est droit et pur devant Dieu, Jacques dit, ben là, Vous niez la réalité de la chose. La vérité, c'est qu'il y a un problème de cœur. Et si en tant que chrétien, nous ne sommes pas prêts à reconnaître que notre cœur a besoin d'être renouvelé, nous ne pourrons pas avancer. Et nous serons constamment en lutte par nos propres forces à essayer de dire ce qu'il faut en toujours faisant attention, mais on ne réussira jamais. Et verset 15, Jacques dit, cette sagesse, qui va dire, tout va bien. C'était juste quelques paroles, je vais faire attention, sans réellement un changement de cœur. Jacques dit, cette sagesse-là, elle est terrestre. Elle n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est charnelle. C'est notre ancienne vie. C'est ce qu'on doit délaisser, mettre de côté. Et puis, Jacques, comme il ne mince pas ses mots, il va pas avec le dos de la cuillère, du début jusqu'à la fin de ce livre. Jacques dit les choses telles qu'elles sont. Même si parfois ça plaît pas. Même si parfois ça choque quand il appelle les chrétiens adultères, spirituels. Oula. Hypocrites. On n'aime pas cela, mais Jacques le dit, parce que c'est vrai. Jacques dit, ce raisonnement qui consiste à nier qu'on a un problème de cœur, Jacques l'appelle diabolique. Vous vous rendez compte de la force de cela? Diabolique, c'est-à-dire Satan veut nous garder dans cet état d'esprit de croire que notre cœur, pas de problème. C'est pas le cœur qui affecte nos actes et nos paroles. Et il veut qu'il y ait une dissociation de ces choses. Et qu'on passe notre temps à nous occuper ce qu'on appelle des symptômes et non pas réellement du vrai problème. Et vous le savez vous-même, un médecin qui ne traite que des symptômes, il n'est pas bon à grand-chose. Et si on ne traite que des symptômes, ces symptômes vont continuer de revenir, et revenir, et revenir. Jusqu'à ce qu'on traite le vrai problème. Et Jacques dit ici, Satan voudrait garder les chrétiens dans cette erreur de croire que les paroles et les cœurs ne sont pas liés. Qu'on doit passer tout notre temps à bien s'assurer qu'on ne dit pas ce qu'il ne faut pas, qu'on dit ce qu'il faut, et qu'on passe peu, voire pas du tout, du temps à s'occuper de son cœur. Et Jacques dit, non. C'est tout l'inverse. Si il y a ces paroles mauvaises, si il y a cette duplicité, s'il y a cette hypocrisie qui est là, si on nie la réalité, c'est parce que son cœur a besoin d'être changé. Et lorsque le cœur sera changé, à ce moment-là, obligatoirement, ce qui va sortir sera le bien. Et nous pouvons reprendre les images dans les versets 7 jusqu'au verset 12. Une bonne source, qu'est-ce qu'elle produit? On n'a pas besoin de se poser la question. C'est la nature. Elle produit une bonne eau utile, agréable. Elle ne peut faire autrement. Et un figuier, qu'est-ce qu'il produit? La question, elle semble tellement ridicule. Bête. Elle produit des figues. Un cœur renouvelé par la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il produit? On n'a pas besoin de chercher bien loin. Un cœur renouvelé par la grâce de Dieu va produire de bonnes choses, obligatoirement. Et c'est là où, verset 16, Jacques dit, là où il y a un zèle amer, le zèle il est bien, mais il faut qu'il vienne de la bonne source. Un zèle amer, non. Un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Quand le cœur il n'est pas bon, obligatoirement, de mauvaises choses vont s'en sortir. Et s'il y a de mauvaises choses qui sortent de notre bouche, il ne faut pas mettre l'accent sur la bouche, mais sur le cœur, la source de ces mauvaises choses. Et au verset 17, la sagesse d'en haut. la sagesse d'en haut. C'est elle qui va pouvoir produire toutes les choses que nous voyons dans ce verset 17. La sagesse d'en haut. Et voilà pourquoi Jacques peut dire « Aucun homme ne peut dompter la langue. Aucun homme ne peut contrôler, maîtriser la langue. » Impossible. Même un chrétien, par lui-même, ne peut pas. Qui peut le faire si ce ne sont pas des hommes? Ben, c'est Dieu. Vous savez, le cœur de l'homme, la bouche de l'homme, c'est rien à côté de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé notre cœur. Et Dieu est capable de transformer ce cœur qui est en nous, ce cœur mauvais, ce cœur ou encore des désirs qui sont contraires à Dieu, ces désirs de la chair, comme on les appelle. Ben, pour Dieu, ça, ce n'est rien. Sa puissance est tellement plus grande que n'importe quel désir que nous pourrions avoir. N'importe quel travers dans notre cœur dur, ben Dieu est tellement plus grand que cela. Et Jacques dit ici, la sagesse d'en haut. C'est ça qu'il nous faut. La sagesse d'en haut va obligatoirement, sans exception, produire ce que nous voyons ici. Cette douceur, elle sera pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie, il y aura la paix, obligatoirement. Ce qui fait que si ces choses manquent, quelle est la question qu'il faut se poser? Comment est-ce que moi, par moi-même, je peux produire ces choses? Non, c'est Dieu, qu'est-ce que tu as besoin de changer dans mon cœur pour que ces choses en sortent? Quel est le problème dans mon cœur qui empêche à ce que ces choses se voient? Dieu, j'ai un problème de cœur que je ne peux pas régler moi-même. Je suis ton enfant, je sais que tu veux pour moi le meilleur, je sais que tu veux produire ces choses en moi. Enlève des obstacles qui sont dans mon cœur. Et cette sagesse d'en haut implique que ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, il faut demander. Dieu donne à celui qui demande. Dieu ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche va trouver. Il s'agit pour nous de demander à Dieu cette sagesse. Qu'est-ce que Jacques avait dit plus tôt, au début de sa lettre? Il a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander conseil à droite et à gauche? Non. Lire beaucoup de livres pour augmenter son intelligence? Non, vous le savez très bien. Si on manque de sagesse, il faut prier, parce que Dieu donne librement. Dieu donne avec largesse cette sagesse qui vient de lui. Ce qui fait que si on n'a pas la sagesse, pourquoi? À qui la faute? À Dieu? Absolument pas. Même si parfois, peut-être dans nos pensées, on s'en prend un peu à lui. Non, si on n'a pas la sagesse en haut, c'est parce que nous ne la demandons pas. Et si nous ne la demandons pas, c'est probablement parce que nous ne voyons pas notre besoin. Et nous sommes dans cette catégorie de personnes qui mentent contre la vérité, qui essaient de nier la réalité de la chose. Non, tout va bien. Tout va bien. Ah bon? Si on fait l'examen de notre vie, si vous devez enregistrer vos conversations et vous les repasser à la fin de la journée, quelle serait votre réaction? Ah bon, j'ai dit ça? Ah, j'avais ce ton? Ah, j'ai employé ces paroles? Nous serions tous surpris. Nous avons un problème. Et il ne s'agit pas de faire des excuses. Le monde va dire, nous sommes nés comme ça. Dans un sens, le monde a raison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester comme cela. Non, nos paroles montrent très clairement quel est l'état de notre cœur. Et dans quelle catégorie trouvons-nous? Déjà, sommes-nous sauvés? Ici, Jacques écrit à des chrétiens, des gens sauvés par la grâce de Dieu. Sommes-nous dans cette catégorie? Je prie que oui. Et si nous sommes sauvés par grâce, est-ce que nous sommes dans la catégorie des chrétiens qui essaient de faire des excuses, qui disent, il n'y a pas trop de problèmes, je vais faire attention, je vais faire de mon mieux, je vais essayer comme je peux? Ou est-ce que nous sommes de cette catégorie de chrétiens qui va dire, je ne peux pas. J'en suis totalement incapable moi-même. Et je vais demander à Dieu de changer mon cœur. Je vais demander à Dieu de m'aider. Je vais aller à la source du problème. Je ne veux pas traiter simplement les symptômes. Non, ce n'est pas assez. Ça ne peut pas marcher. Je veux traiter la source du problème. Et à ce moment-là, il faut demander. On vient à Dieu dans la prière. Et puis, nous n'avons pas besoin de faire ça tout seul. Jacques, ici, n'écrit pas juste à un individu. Non, il écrit à toute une église. Et Dieu nous a donné des frères et sœurs en Christ. Et Paul va appuyer cela en disant, il faut porter les fardeaux les uns des autres. Et il s'agit, lorsque nous nous rendons compte que nous avons un problème, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir prier avec nous, avec lequel nous allons pouvoir partager ce besoin. De dire, j'essaye, je veux faire confiance à Dieu, je lui demande son aide, est-ce que tu peux prier avec moi, est-ce que tu peux être là pour que je puisse rendre des comptes, pour qu'on puisse discuter. Et Jacques ici dit, le problème, c'est pas vraiment ce qui sort. C'est sûr que ce n'est pas vraiment ce que nous voyons. Non, ça c'est simplement, ce ne sont que des symptômes. C'est simplement l'extérieur. Ça va beaucoup plus loin. Et si nous voulons voir un changement à l'extérieur, il faut demander à Dieu. Il faut reconnaître son problème. Ne voulez-vous pas ce que nous voyons dans le verset 17? Cette paix, cette douceur, être pacifique, modéré, conciliante, exemple de multiplicité d'hypocrisie, ne voulez-vous pas cela? Au lieu du contraste que nous voyons dans les versets précédents, tout le mal, toute la haine, tout ce qui est charnel, tout ce qui est, même comme Jacques le dit, diabolique, qui choisirait délibérément cela? Et pourtant, nous le faisons. Je le fais. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour demander à ce qu'il nous donne cette sagesse d'en haut. Il est prêt à la donner. Où est le problème? C'est parce que nous ne demandons pas. Et Jacques, justement, dans les versets qui suivent, chapitre 4, il va dire, vous n'avez pas. Pourquoi? C'est parce que vous ne demandez pas. Et de faire le bilan dans sa vie. Et de dire, oui, j'ai un problème. Et parce que je ne peux pas résoudre ce problème moi-même, je vais faire appel régulièrement à Dieu. C'est peut-être une prière qu'il faut renouveler tous les jours. Peut-être, et certainement, plusieurs fois par jour. Parce que nous trébuchons, c'est cette idée de broncher au début de ce chapitre, nous trébuchons, nous disons ce qu'il ne faut pas. Mais à ce moment-là, instantanément, demander à Dieu de nous aider. Ne pas faire d'excuses. Ne pas dire, je vais faire mieux la prochaine fois. Mais de demander à Dieu de nous aider, de nous accorder sa sagesse d'en haut. Parce que nous voyons les bienfaits de cela. Et parce que surtout, cela le glorifie. Dieu met tout à notre disposition. Que faisons-nous? Quelle est la preuve dans votre vie? Lorsque les gens vous entendent, lorsque les gens vous voient, qu'entendent-ils? Que voit-il? Allez-vous laisser Dieu vous changer? Allez-vous continuer d'essayer de vous changer vous-même? Exercice inutile. Voici ce que Jacques, inspiré par Dieu, il y a pratiquement 2000 ans, devait enseigner aux chrétiens de son époque. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le cœur de l'homme n'a pas changé. cœur de l'homme a toujours un problème, même pour le chrétien. Alors, qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, demain, tout au long de cette semaine, jusqu'à la fin de notre vie, demandons la sagesse d'en haut pour que nous soyons agréables à Dieu, en tout point. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous reconnaissons notre incapacité, notre faiblesse. Nous reconnaissons que tu es le seul qui puisse nous aider. Et nous venons vers toi parce que tu as promis de nous soutenir, de nous aider. Pour toi, toutes ces choses ne sont rien. Pour nous, c'est impossible, mais pour toi, tu peux surmonter. C'est toi qui transformes. Et nous demandons cette sagesse d'en haut, Seigneur. Nous reconnaissons que nous agissons mal, nous parlons mal. Seigneur, donne-nous toujours de nous tourner vers toi, de faire élever vers toi cette prière pour cette sagesse. Que nous ne nous laissions pas tenter et aveugler par Satan, mais au contraire, éclaire-nous. Et Seigneur, que les gens autour de nous puissent constater la différence, qu'il y ait cette transformation que toi tu promets. Tu es toujours fidèle, Seigneur, et tu veux nous voir grandir, tu veux nous voir te faire de plus en plus de confiance, élever notre voix vers toi de plus en plus souvent. Et Seigneur, nous demandons ton aide pour aujourd'hui, pour toute cette semaine devant nous. Tu connais les attaques que nous subirons, tu connais les tentations. Aide-nous, préserve-nous, donne-nous la victoire en toi, Seigneur, et que tu sois exalté et glorifié à travers notre vie parce que nous faisons appel à toi et parce que nous faisons confiance en toi. En ton nom, nous prions. Amen.